France Inter, le 6-9 du week-end. Intervenez
au 01 45 24 7000. Nos invités ce matin, Franck Riester, député constructif de Seine-et-Marne, délégué national de ce nouveau parti de droite Agir, et on accueille Jack Lang. Bonjour Jack Lang.
Bonjour.
Président de l'Institut du Monde Arabe, l'institut qui célèbre ses 30 ans avec notamment cette superbe exposition. Je dis superbe parce que j'ai eu le bonheur de la voir sur les chrétiens d'Orient et leur histoire agitée, une exposition d'une pertinente actualité. Et merci Jack Lang donc de venir ce matin faire un tour d'horizon avec nous de l'actualité. Vous étiez hier en l'église Sainte-Marie-Madeleine à Paris pour cet hommage populaire rendu à Johnny Hallyday. Quelle séquence retiendrez-vous?
Laetitia et ses deux enfants.
La dignité de Laetitia.
La beauté, la dignité, l'élégance, la simplicité. Séquence rare, belle et forte.
Quand Emmanuel Macron parle d'un destin français, d'une mythologie même, selon Daniel Rondeau, quelle est la mythologie de Johnny Hallyday?
C'est, en tout cas, il exprime, je dirais, des sentiments profonds. Mythologie, c'est l'histoire qui nous dira si Johnny est entré dans la légende.
Oui, mais c'est ça, Jack Lang, si vous le permettez, qui a quelque chose d'inexpliqué et de fascinant, c'est que l'idole idolâtrée est en train de passer à un autre statut, en quelque sorte, de héros populaire, un héros qui n'a rien fait d'héroïque, en fait. C'est une première.
Enfin,
c'est...
Oui, l'héroïsme n'est pas nécessairement un héroïsme guerrier.
C'est un héroïsme intellectuel,
un héroïsme artistique.
Donc il y a une forme d'héroïsme chez lui.
Je ne dirais peut-être pas jusque-là, mais il n'est pas impossible que ce mot s'incarne avec le temps et que finalement, dans la mémoire collective, en effet, il devienne un héros.
Et que le nombre de personnes qui sont venues hier participeront justement à ce changement de statut.
Ce qui était très beau hier aussi, moi personnellement, je suis toujours porté vers les événements dont les citoyens sont co-auteurs ou acteurs. La fête de la musique, la fête du patrimoine et tant d'autres choses.
Le festival de Nancy.
Et là, c'était fantastique. Moi, je suis venu longtemps à l'avance aux Champs-Élysées et ailleurs. Ça me touche, ça me bouleverse de voir tous ces gens venir unis par la même émotion, le même mouvement. Et pour cela aussi, j'ai envie de dire merci Johnny.
N'avez-vous pas ressenti, comme on a pu le lire ce week-end dans la presse, comme un excès d'hommage rendu au chanteur?
Bon, mieux vaut un excès qu'une indifférence. Et puis le temps fera son œuvre. Je crois que le président de la République a trouvé les mots justes hier. Et surtout, lorsqu'il a à la fin de son discours, inviter la foule à applaudir.
Où que vous soyez, qui que vous soyez, effectivement, le chef de l'État a demandé à applaudir le chanteur. Johnny Hallyday, c'était aussi un exilé qui est parti parfois pour payer moins d'impôts en France. Est-ce qu'il est temps de reparler de ça, ou est-ce que la séquence fait que on parlera de ça un autre moment, et qu'au moment de saluer ce que Philippe Labro appelait hier la grâce et la gloire du chanteur, tout ça, on en fait un peu fi?
Je suis très mal informé, je me refuse pas de répondre, je ne sais pas très bien.
Disons, il a été condamné pour fraude dans les années 70, concernant son exil à Gstaad en Suisse, Johnny Hallyday le disait lui-même, hein, il ne voulait pas se faire tondre par le mouton. C'est un peu des aspects de Johnny Hallyday qu'on a oubliés. C'était normal de les oublier, ou au contraire, on aurait dû en parler toujours?
Ne gommons pas la réalité, il ne s'agit pas de dresser une histoire, une historiographie officielle qui serait pure et sans tache, mais... En ce moment-là, je dirais que ce qui est important, c'est l'élan, le souffle, la force, la puissance de l'émotion collective. Essayons d'en tirer un bénéfice pour notre énergie dans l'action de chaque jour. Pour le reste, ce seront les historiens qui l'établiront.
Franck Riester, vous êtes du même point de vue?
Oui, tout à fait. Ce qui était assez frappant hier, c'est qu'au-delà même de ceux qui étaient à Paris, il y a tous ceux, et à la Madeleine, tous ceux qui étaient devant leur écran de télévision, à la radio, écoutaient les hommages. Les rues des villes étaient vides hier. Je voudrais bien savoir quelles étaient les audiences et radio et télé pour voir l'impact que ça a eu dans la population. Mais il y avait une vraie volonté de tous de partager cette émotion commune pour un monument national. Quand vous allez à l'étranger, j'ai discuté avec un ami hier, il me disait quand j'étais à l'étranger, j'avais toujours envie d'écouter une chanson de Johnny Hallyday parce que je me rappelais que j'étais français. C'est une partie de la France, Johnny Hallyday.
Jack Lang, autre sujet d'actualité. invité, vous êtes donc à la tête de l'Institut du Monde Arabe et vous avez condamné la déclaration de Donald Trump d'instaurer Jérusalem comme seule capitale d'Israël, à vos yeux. Et quelles seront les conséquences les plus dangereuses de ce positionnement américain ?
D'abord, c'est un acte illégal, contraire au droit international et aux résolutions des Nations Unies. C'est un acte unilatéral, décidé sans aucune concertation avec les alliés. C'est un acte qui créera une instabilité supplémentaire. Déjà, son prédécesseur Bush avait créé le chaos, dont nous payons encore le prix aujourd'hui par son intervention en Irak. Aujourd'hui, en déclarant unilatéralement que Jérusalem serait la capitale d'Israël, Trump crée une autre forme de chaos, alors que c'est l'inverse qu'il faudrait accomplir aujourd'hui. Et je souhaite de tout mon cœur que le président de la République qui recevra aujourd'hui
Benjamin
Netanyahou,
le premier ministre israélien,
que ce n'est pas l'intérêt d'Israël que d'agir de cette manière brutale, unilatérale, de même que la colonisation qui ne cesse de réduire un peu plus le territoire palestinien met en cause la paix.
Mais est-ce que la France a encore du poids lorsqu'elle va dire tout à l'heure à Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien, que la position qu'elle défend, enfin la position israélienne de vouloir faire de Jérusalem la seule capitale, n'est pas la bonne solution? Est-ce que la France a encore du poids pour dire ça? Ou est-ce que c'est l'Europe maintenant qui doit relayer?
La France, c'est l'Europe. Et l'Europe, c'est la France. Je veux dire par là que l'autorité de notre pays, depuis toujours, est renouvelée d'une certaine manière par l'élection récente d'Emmanuel Macron, qui, par sa jeunesse, son énergie, sa vitalité, mène une politique internationale efficace et très présente dans le Moyen-Orient. Très présente.
Il l'a montré notamment dans l'épisode entre le Liban et l'Arabie saoudite.
Donc il est celui, au contraire, celui aujourd'hui, à partir duquel peut s'édifier une solution de paix.
Jack Lang, Franck Riester, on va aller au standard pour les questions des auditeurs. Jean-Paul nous appelle. Jean-Paul, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Lang. Ne pourriez-vous pas prendre la tête du Parti Socialiste en récomposition? Parce que je me souviens que vous aviez dit il faut s'éloigner d'une vie productiviste pour aller vers une vie spirituelle. Et nous, Sartre, nous disons l'existence précède l'essence. Donc nous serions dans le même bateau et nous pourrions créer une nouvelle énergie autour d'une vie qui était une vie de recherche et de tolérance et de ne pas savoir où on va, mais on y va quand même.
Jack voilà. Lang, donc est-ce que la politique vous intéresse encore?
Elle me passionne évidemment, mais je ne suis pas dans l'action politique directe aujourd'hui, bien que tout soit politique, y compris.
Mais candidat existentialiste, du Monde Arabe, cite Sartre, candidat existentialiste.
Ben, merci beaucoup de me prêter cette jeunesse d'esprit qui ne m'a pas quitté d'ailleurs, cette énergie, cette volonté, mais ce n'est pas le temps pour moi d'être candidat à je ne sais quoi. Il y a d'ailleurs, je crois savoir, un certain nombre de personnalités qui ambitionnent de devenir premier secrétaire du Parti.
Ils ne sont pas nombreux pour l'instant. Jack Lang, pendant une dizaine d'années, vous avez conduit la politique culturelle de la France. Il y a aujourd'hui une ambition macronienne de réformer l'audiovisuel public avec moins de chaînes et un rapprochement possible entre les télés, les radios du service public, cette éventuelle holding inédite depuis l'éclatement de l'ERTF en 1974. Est-ce que ça vous semble opportun?
Bon, d'abord, moi je me garde de commenter les commentaires. Les propos prêtés à Emmanuel Macron n'ont pas été prononcés par lui publiquement. Ils sont rapportés par des parlementaires, je crois.
On parle d'un autre épisode. On parle de les propos prêtés à Emmanuel Macron pour dire que le service public était la honte de la République. Vous faites référence à cette...
C'est pas la même, excusez-moi. Alors
parlons-en. La honte, c'est une charge d'une rare violence, inédite même, je crois, dans la bouche d'un chef d'État en exercice.
A-t-il tenu ses propos? Je répète,
devant 70 députés, dont certains ont rapporté qu'ils ont bien entendu, bon, effectivement, alors, ces propos-là.
J'attends de connaître les propositions publiques que fera le président de la République. Pour moi, ce n'est pas en tout cas une honte, c'est une fierté d'être ce matin ici. c'est une fierté d'appartenir à Radio, d'être l'invité de Radio France. C'est ma radio, si j'ose dire, c'est la radio de la nation, c'est la radio des citoyens. Le travail qui est fait ici à France Inter, à France Culture, à France Musique, au Move, j'en oublie. Mais c'est fantastique, c'est une des plus belles radios qui soit. Alors, probablement, ces propos, s'ils existent, portés sur la télévision, et en effet, alors, vu mon point de vue, je trouve que la part qui est réservée à la culture, y compris dans les journaux télévisés, tend à se réduire comme peau de chagrin, et je le déplore. Et sans doute y a-t-il à revoir des choses sur l'organisation, les rémunérations éventuellement abusives, mais on peut le faire sagement, solidement, sérieusement. Et des regroupements, pourquoi pas.
Je me retrouve dans la position inconfortable de devoir être un peu jugé parti ce matin, mais enfin je dois rappeler quand même que lorsque France Inter diffuse à 20h des concerts, ça concerne 800 000 personnes qui écoutent, c'est des dizaines et des dizaines de zéniths, et le service public sert à ça effectivement. En termes de podcast, France Inter est le plus gros producteur, enfin diffuseur de podcasts et en France. Franck Riester, je rappelle que vous êtes aussi membre de la commission des affaires culturelles et éducation à l'Assemblée nationale. Est-ce que l'un des leviers d'avenir du service public, ça ne passe pas par la redevance qu'il faudrait repenser ?
Si, évidemment, il faut repenser le mode de financement du service public de l'audiovisuel. Et des solutions existent, notamment en Allemagne, de redevances universelles, que chaque citoyen puisse contribuer d'une manière ou d'une autre au financement de l'audiovisuel public. C'est une bonne chose. On voit bien que de moins en moins de Français regardent la télévision à travers la télévision classique, mais via les différents supports numériques, et que donc il faut en tirer les conséquences en termes de financement. Mais ce qu'a dit Jack Lang est tout à fait juste. On a une chance exceptionnelle dans notre pays d'avoir un audiovisuel public comme celui-là, mais il fait face, comme tout le paysage audiovisuel, à la révolution numérique, à la réorganisation des acteurs. Et donc il faut enfin que l'État prenne ses responsabilités, fixe le cap, ait une vision claire de là où il veut emmener l'audiovisuel public, qu'il clarifie les missions de service public actualisées au monde d'aujourd'hui, et qu'il s'en donne les moyens. Et vous verrez que ce que les Français parfois rechignent ou critiquent, la télé, la radio, ici ou là, retrouveront une vraie fierté tous de leur audiovisuel public, parce qu'il y a des femmes et des hommes de talent, mais qui aujourd'hui souffrent du manque de vision, de volonté, d'ambition des pouvoirs publics pour leur audiovisuel public. En matière d'audiovisuel public à l'extérieur, d'audiovisuel dans les territoires, d'audiovisuel sur les supports numériques, il y a des choses formidables qui se font, mais il faut aller beaucoup plus loin.
D'où l'idée d'une nouvelle redevance qui tiendrait compte, donc justement.
Une nouvelle redevance et puis d'une vision commune. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut une stratégie commune pour l'ensemble des entreprises de l'audiovisuel public.
L'audiovisuel public doit garder un cap tous les 5 ans et chaque gouvernement ne tient pas compte de ce qui a été fait dans les 5 années précédentes. C'est la difficulté du service public d'envisager son avenir.
L'État s'assoit régulièrement sur sa signature. Alors au lieu de faire des contrats d'objectifs et de moyens, c'est-à-dire qui fixent les droits et devoirs, les engagements et les financements de l'audiovisuel public avant l'élection du nouveau président de la République, ça serait plus intelligent de le faire après. Parce qu'évidemment, le nouveau président de la République ou le nouveau pouvoir est contraint d'appliquer quelque chose qui a été négocié par d'autres sans que ces autres aient la responsabilité de devoir tenir les engagements qu'ils ont pris. Première chose. Deuxième chose, il faut donner du temps. Chaque année, moi, à la commission des affaires culturelles et ensuite dans l'hémicycle, on parle des financements pour l'audiovisuel public. C'est dingue. Il faut se donner du temps, qu'il y ait des perspectives financières et des perspectives d'organisation de l'audiovisuel public. Il est temps que l'État prenne ses responsabilités.
Eh bien, c'est dit. Jack Lang, pour ses 30 ans, l'Institut du Monde Arabe présente en ce moment une superbe exposition, je le disais, sur les chrétiens d'Orient. Quel enseignement, et leur histoire perturbée, hein, quel enseignement en tirez-vous de cette exposition? On rappelle que c'est une région qui englobe aujourd'hui la Palestine, l'Irak, la Syrie, l'Égypte, le Liban, c'est très d'actualité.
Oui, je n'étais pas évident d'organiser un tel événement. C'est une première mondiale. C'est la première fois que l'on réunit près de 400 œuvres venant donc de la chrétienté qui est née en Orient. Ces œuvres racontent l'histoire mouvementée, tumultueuse et aussi heureuse de ces chrétiens qui sont une composante du monde arabe. Et ce que je cherche avec d'autres à montrer, c'est que le monde arabe est à la fois un par sa langue, la langue arabe, et multiple par les apports de spirituels, culturels, intellectuels des différentes composantes. Et le christianisme est l'une de ces composantes.
Il y a des pièces magnifiques que j'ai pu voir aussi.
Et ce qui me touche beaucoup, ce qui peut-être vous a touché aussi, c'est que les musulmans et non-musulmans, chrétiens et non-chrétiens, croyants et incroyants se pressent par dizaines de milliers, c'est un des plus grands succès de l'Institut du Monde Arabe, et cette atmosphère de tolérance, de respect qui parfois disparaît de la scène publique, est là présente, et le mot « respect » est à l'ordre du jour à Lima.
Et on regardera le firmament, hein, cette lettre de Soliman le Magnifique à François Ier, un rouleau de papier entoilé, une sorte de premier traité de libre-échange.
Oui, par lequel Soliman le Magnifique promet à François Ier de préserver les chrétiens et aussi les relations économiques avec l'Empire Ottoman.
Merci Jack Lang et merci Franck Riester d'être venu ce matin sur France Inter.